Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous, merci de votre fidélité. Comme tous les jours, RFI vous donne la parole avec d'abord votre rendez-vous privilégié avec la rédaction d'RFI. Dans un instant, ce seront vos questions, les questions que vous posez aux journalistes, aux experts de la rédaction de Radio France Internationale, nos correspondants, nos envoyés spéciaux à travers le monde. Le principe, vous le connaissez, s'il vous manque des clés, des repères pour décrypter, pour mieux comprendre tous les sujets que nous traitons à l'antenne, eh bien, vous nous appelez, un seul numéro, 09 693 693 70, 33 9 693 693 70. Si vous nous appelez de l'étranger, vous nous envoyez également vos questions sur les réseaux sociaux, sans oublier de nous indiquer un numéro de téléphone. Dans 30 minutes, notre débat du jour portera sur la lutte contre la criminalité à Kinshasa, avec en toile de fond la publication d'un rapport accablant. L'ONG Human Rights Watch dénonce les bavures de la police congolaise lors d'une opération coup de poing pour traquer les délinquants de Kinshasa. L'organisation de défense des droits de l'homme affirme que 51 personnes ont été exécutées et 33 autres sont portées disparues. Ce n'est pas la première fois que la police congolaise fait l'objet d'un rapport très critique. Le mois dernier, vous en souvenez certainement, on en a beaucoup parlé sur notre antenne, c'était les Nations Unies qui dénonçaient les mêmes exactions. Alors que pensez-vous de ces accusations? Vous qui nous écoutez en ce moment à Kinshasa, on attend évidemment vos témoignages et dites-nous quel regard vous portez sur la réaction des autorités qui dénoncent une ingérence inacceptable. 33 9 693 693 70 et vous êtes nombreux à souhaiter témoigner. Vos questions, la première question nous vient du Nigeria, nous allons à Jos exactement. Bonjour Youssouf.
Oui, bonjour Johan. Merci. Bonjour à tous les auditeurs de la RFI et bienvenue à Jos.
Jos, capitale de l'état du Plateau, c'est au centre du Nigeria. Et vous avez des questions concernant justement la situation sécuritaire dans votre pays et la perspective de l'élection présidentielle dans quelques mois.
Oui, effectivement, c'est ça. Nous avons suivi la semaine passée le président nigérian Goodluck Jonathan a annoncé sa candidature aux prochaines élections présidentielles, alors que la situation ne fait que s'empirer dans le nord-est du pays. Alors, quelle stratégie compte mettre en place le président Goodluck pour répondre de la meilleure manière à la menace posée par Boko Haram?
Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question et vous avez raison. Hein, sur le plan sécuritaire, on peut dire que le bilan de Goodluck Jonathan est un échec. Hein, durant son mandat, la situation n'a fait qu'empirer. Bonjour Mélissa Chemam.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service Afrique d'RFI. On le voit bien, les autorités ne parviennent pas à anéantir les islamistes de Boko Haram. Les attaques sont quasi quotidiennes. Les islamistes ne cessent de gagner en puissance. Quelle sera la stratégie du président sortant, du candidat Goodluck Jonathan, pour essayer d'en finir avec Boko Haram?
Alors le président sortant, donc Goodluck Jonathan, a bien sûr déjà émis de nouvelles promesses en matière de sécurité, mais il se tient à cette même stratégie, à savoir une stratégie purement militaire. Donc c'est le 11 novembre dernier qu'il se déclarait candidat pour son parti, le PDP, le Parti démocratique populaire, alors qu'il venait de promettre à nouveau qu'il ferait, je cite, « tout son possible pour mettre fin aux tueries et aux violences » et que la guerre contre le terrorisme, une guerre lancée contre Boko Haram, serait selon lui bientôt gagnée. Cette déclaration, c'était au lendemain d'une attaque contre un lycée de la ville de Potiskum dans l'état de Yobe. Et ces promesses interviennent donc alors que l'insécurité s'exacerbe dans les trois états du nord les plus victimes de Boko Haram. Ce sont les états d'Adamawa, de Borno et de Yobe. Ces états sont placés sous état d'urgence depuis mai 2013. Et le but de cet état d'urgence était de renforcer les mesures de lutte contre les attaques du groupe islamiste radical. Mais on constate bien que cette mesure n'a fait que décupler les violences. Les violences ont largement augmenté dans ces régions depuis 18 mois, donc depuis la mise en place de cet état d'urgence. Alors le fait que cette stratégie strictement militaire, mise en place par ce gouvernement, ne semble pas du tout efficace, en tout cas de l'extérieur, contre la logique de Boko Haram, elle fait de nombreux dégâts aussi, c'est ce qu'a rappelé notamment une ONG de défense des droits de l'homme. L'armée s'en est pris violemment aux populations musulmanes du Nord, où sévit le groupe, mais cet effet stratégique, enfin, ne devrait pas inquiéter Goodluck Jonathan dans sa course à la présidentielle, parce qu'il part largement favori.
Ah oui.
Donc en fait, il s'en tient à cette position parce qu'effectivement, sur le plan de l'image, l'armée, la plus puissante d'Afrique, il promet qu'elle finira par débouter le groupe islamiste. Mais étant favori sur le plan politique, il s'en tient à ça. Donc on peut expliquer cela par plusieurs raisons. Ses opposants sont beaucoup plus faibles, plus désunis que son parti. Son parti, le PDP, lui-même reste quand même très populaire dans les États du Sud parce que ce sont les États les plus riches, les plus développés, notamment donc à Jos, mais surtout à Lagos, dans le sud du pays. Selon un expert de l'Institut des études stratégiques de Pretoria, là-bas, la croissance économique porte ses fruits, les villes sont très peuplées, et donc le président qui incarne ce sud-là, il reste une figure populaire. Il n'est pas non plus complètement impopulaire dans le nord, pour des raisons politiques, en fait, et son parti a, depuis plusieurs mois, surmonté des tensions et des divisions internes, et donc il est largement soutenu. Il bénéficie notamment d'une campagne mieux financée, et donc cela permet de montrer que l'échec dans la lutte contre Boko Haram, pour Goodluck Jonathan, c'est un effet tout à fait relatif. Lui, il prétend que cela tient au manque de solidarité et d'unité des Nigérians dans ce combat, ce sont ses mots. Il appelle la nation à se battre ensemble. Il prend par exemple l'exemple de sa gestion dans la crise contre l'épidémie d'Ebola. Effectivement, c'est une question qui a été réglée rapidement au Nigeria par rapport aux autres pays de l'ouest de l'Afrique qui sont atteints. Et ce discours fonctionne sur plusieurs personnes. La semaine dernière, par exemple, l'armée a acclamé ses progrès contre Boko Haram dans l'état d'Adamawa, au moment même où d'autres villes tombaient aux mains de Boko Haram. Et puis, ils ont pu annoncer la reprise de la ville de Chibok qui avait attaqué vendredi dans l'état de Borno.
Donc, en fait, on voit bien que Goodluck Jonathan, quoi qu'il arrive, risque fort bien de remporter cette élection présidentielle. Je vous interromps, Mélissa Chemin, parce que Youssouf a une seconde question à vous poser, toujours liée à l'insécurité dans le nord-est du Nigeria. Youssouf ?
Oui. Donc la deuxième question, nous avons suivi aussi la semaine passée le refus des USA de vendre des armes au Nigeria, donc afin de lutter contre la traite Boko Haram. Alors, quel soutien, y compris en matériel de guerre, pourrait avoir Goodluck de la part de la communauté internationale?
C'est vrai que par le biais de son ambassadeur à Washington, Goodluck Jonathan a regretté le refus des États-Unis de lui vendre des armes. Il s'agissait de vendre notamment des hélicoptères de combat. Cette aide, elle était nécessaire pour le président. Goodluck Jonathan lui dit que ça nuit finalement à la lutte contre le terrorisme. Que faut-il en penser, Mélissa Chemam?
Oui, alors, c'est le point de vue donc de parti au pouvoir, de Goodluck Jonathan et de l'armée. Les États-Unis arguent qu'ils ont une loi qui empêche de vendre des armes aux pays qui ont de terribles bilans en matière de respect des droits de l'homme. C'est ce que disent donc les États-Unis. Et il se trouve qu'effectivement, plusieurs associations comme Human Rights Watch ont montré que l'armée commet de nombreuses exactions dans cette lutte contre Boko Haram. Mais le Nigeria ne compte pas se laisser faire. Apparemment, ils envisagent cette fois d'importer des armes auprès d'autres pays, notamment la Russie. Pour de prochaines commandes, ils pourraient acheter à Moscou des avions, des hélicoptères et des armes lourdes. Les États-Unis répondent qu'ils pourraient aider dans cette lutte le Nigeria autrement. On a remarqué que mercredi dernier, Washington avait classé les groupes Boko Haram, mais aussi le groupe Ansarou comme organisation terroriste. Et la conseillère de Barack Obama sur les questions de sécurité intérieure, Lisa Monaco, elle a rappelé qu'il faut créer des conditions économiques favorables, notamment donc dans le nord-est du pays, pour que la population se développe mieux, pour que Boko Haram soit moins séduisant. Parallèlement, Boko Haram, le groupe semble avoir changé de stratégie aussi pour se rapprocher des populations, pour conquérir les villes. Et donc, effectivement, les arguments des États-Unis, qui sont repris par des organisations de défense des droits de l'homme, semble être la stratégie qu'il faudrait peut-être au moins tenter, notamment dans une coopération régionale, par exemple, avec des pays voisins et des questions d'aide économique au développement.
À suivre donc. Merci Mélissa Chemam. Vous souhaitez réagir justement à la candidature de Goodluck Jonathan, à l'insécurité dans le nord-est du Nigeria, eh bien n'hésitez pas, n'oubliez pas, le vendredi, c'est la libre antenne. Vous commentez l'actualité de votre choix. Avec nous, il nous rejoint à l'instant, Nicolas Falaise du Service International. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Merci d'être là. Abdou a des questions à nous poser concernant une récente décision de la Cour pénale internationale à l'égard d'Israël. On va en parler avec lui. Bonjour Abdou.
Bonjour Juan, les auditeurs de RT.
Vous nous appelez de Niamey au Niger, on vous écoute.
Oui, bienvenue à Niamey.
Merci.
Ça va, c'est par rapport à la décision de la CPI que je vais me prononcer. Il consiste à ne pas poursuivre Israël suite au bombardement sur la flottille qui s'est dirigée vers Gaza en 2010. J'aimerais savoir quelles sont, sur quelle base juridique s'appuie-t-elle pour ne pas poursuivre Israël?
Alors, on va déjà répondre à cette première question, Nicolas Falaise. Il ne s'agissait pas de bombardement. On rappelle rapidement les faits remontent à 2010. Une flottille humanitaire de 8 navires, hein, avec à bord 70 passagers. Eh bien, tout ce monde-là avait tenté à l'époque de briser le blocus israélien et d'apporter de l'aide à Gaza. Il y a eu des morts lors de cet assaut israélien. 9 Turcs, exactement. Absolument. Plus une dixième personne qui est décédée un peu plus tard de ses blessures. Et effectivement, la CPI, par la voix de Fatou Bensouda, donc la procureure de la CPI, a indiqué qu'Israël ne sera pas poursuivi pour cet assaut.
Pourquoi? Oui, alors, encore un fait important, le navire Marmara, le bateau à bord duquel l'assaut a fait des victimes, était un bateau turc, mais battant pavillon comorien, ce qui a permis à l'État des Comores de saisir la CPI, ce qui n'était pas possible du côté turc, puisque la Turquie, elle n'est pas un État parti à la Cour pénale internationale. Alors, pour répondre à la question de notre auditeur, la Cour pénale internationale, dans sa décision, invoque le critère de gravité des faits. C'est un critère juridique. Le critère de gravité suffisante existe bel et bien dans le statut de Rome, de la CPI, à l'article 17. Et c'est en se fondant sur ce texte que le bureau du procureur de la Cour, qui doit évaluer la gravité des faits, a décidé de ne pas donner suite à cette plainte. Selon le traité fondateur, la CPI doit avant tout se concentrer sur les crimes de guerre commis à grande échelle ou dans le cadre d'un plan ou d'une politique. Cependant, tout en décidant de ne pas poursuivre, la Cour pénale internationale a estimé avoir des informations permettant de penser que les soldats israéliens ont bien commis des crimes de guerre le jour de l'assaut, le 31 mai 2010.
Ouais. Ce critère de gravité suffisante, est-ce qu'il a déjà été invoqué par la Cour pénale internationale pour renoncer à poursuivre d'autres affaires?
Absolument. Souvenez-vous de l'affaire des détenus irakiens maltraités dans la prison d'Abu Ghraib, près de Bagdad, au début des années 2000. Alors, il y a eu ensuite une plainte visant des militaires britanniques soupçonnés d'exaction, pas une plainte américaine, puisque les États-Unis ne sont pas un État parti à la CPI. Et à l'époque, suite à cette plainte, la Cour pénale internationale avait jugé que les faits dans le dossier n'étaient pas assez graves. Pas de poursuite, donc. Mais c'est une affaire en cours de réexamen sur la base de nouvelles informations. Cela pourrait donc évoluer.
Ouais. Abdou, vous avez une autre question?
Oui, bien sûr. Non satisfait de la décision, les avocats ont décidé de faire appel. Et j'aimerais savoir quels sont les moyens légaux dont disposent ces avocats pour faire appel.
Ah, les moyens légaux dont disposent les avocats pour faire appel devant la Cour pénale internationale, Nicolas Falaise?
Eh bien, renseignement pris, un État parti au statut de la Cour pénale internationale peut dénoncer une décision du bureau du procureur. Et si les avocats qui ont déposé la plainte au nom des Comores vont au bout de la démarche qu'ils ont annoncée, ils ont donc un recours possible auprès de la chambre préliminaire de la CPI et on entendra donc peut-être encore parler de cette plainte. Juste un mot, Juan, pour dire que le rapport complet du bureau de procureur sur cette affaire et sur les autres, on peut les consulter sur le site internet de la Cour pénale internationale avec tous les détails juridiques.
Merci beaucoup, merci Nicolas. À bientôt Abdou, n'hésitez pas à nous rappeler quand vous le souhaitez et on vous souhaite une bonne journée. À Niamey, 33 9 693 693 70. Pierre, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous nous appelez de Libreville, au Gabon. Vous avez des questions concernant la République démocratique du Congo.
Bien sûr Juan. Bon, je voulais savoir Juan, comment se fait-il que les anciens miliciens M23 se trouvent toujours et tranquillement en Ouganda et au Rwanda, alors que ces deux pays sont signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba de février 2013?
Ouais. C'est une bonne question là aussi, comme chacune de vos questions. C'est vrai qu'il y a quasiment un an, jour pour jour, avec l'aide des casques bleus de la MONUSCO, eh bien l'armée congolaise remportait une victoire historique. C'était une victoire militaire sur ces rebelles du M23. Et un an plus tard, eh bien ces rebelles n'ont toujours pas été rapatriés. C'est une question, Pierre, qui est souvent revenue tout de même ces derniers jours au standard d'RFI. Avec nous, Léa Lisa Vesterhoff, la correspondante d'RFI à Kinshasa. Bonjour Léa Lisa.
Bonjour Juan, bonjour Pierre.
Alors, comment expliquer effectivement que ces anciens miliciens n'aient toujours pas été rapatriés? Ils sont encore, comme le disait à l'instant Pierre, en Ouganda et au Rwanda, alors que ces pays s'étaient mis d'accord pour, à travers l'accord d'Addis Abeba, justement, pour ne plus se mêler des affaires de leurs voisins.
Oui, alors c'est vrai que l'accord d'Addis Abeba exige en fait des pays qui l'ont signé de ne pas héberger ou fournir une protection à des personnes accusées de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de crimes d'agression ou encore lorsqu'ils sont sous sanction des Nations Unies. Alors en ce sens, c'est vrai, le Rwanda et l'Ouganda violent l'accord d'Addis Abeba puisque 13 ex-commandants du M23 qui sont sous mandat d'arrêt international sont en ce moment même hébergés au Rwanda et en Ouganda. Alors c'est tout le problème de cet accord d'Addis Abeba, il n'y a pas vraiment de moyens coercitifs quand on ne le respecte pas, à part la pression politique et diplomatique qui visiblement a du mal à avoir de l'effet. Alors ça ne veut pas dire que cet accord d'Addis Abeba est caduc, mais globalement, un an et demi après son adoption, sur d'autres engagements aussi d'ailleurs, il a du mal à être respecté.
Ouais. Alors il y a eu non seulement cet accord d'Addis Abeba dont on parle avec Pierre, mais on peut également se rappeler des déclarations de Nairobi signées en décembre dernier, il y a quasiment un an, des déclarations donc signées entre le M23 et le gouvernement congolais, où le Congo cette fois s'engageait à rapatrier les quelques 1600 ex-combattants qui ont fui en Ouganda et au Rwanda dans son pays, et là aussi les engagements ont du mal à être respectés.
Et oui, et c'est bien la preuve que les responsabilités sont partagées de part et d'autre, du côté du Rwanda et de l'Ouganda bien sûr, mais aussi du côté congolais, puisque dans ce cas-là, 11 mois plus tard, eh bien rien, aucun rapatriement de ces ex-combattants n'a encore eu lieu. Les retards pris sont énormes, puisque le calendrier initial avait prévu que ce rapatriement serait terminé fin mai. Alors pour justifier ce retard, Kinshasa avance des problèmes d'accès au camp, où sont ces ex-rebelles au Rwanda et en Ouganda. Et c'est vrai que cet accès a été au départ difficile. Le Rwandais réclamait notamment des documents administratifs, etc. Mais depuis le mois de février, des visites sur place.
Léa Lisa, êtes-vous avec nous? On a une petite coupure de faisceau. Normalement, on devrait vous retrouver sur le secours téléphone. Léa Lisa, à Kinshasa. Non, pas de Léa Lisa, on va essayer de la rappeler dans un instant. Pierre, ne vous inquiétez pas, on finit évidemment vos explications, quoique Léa Lisa avait déjà dit l'essentiel de la République démocratique du Congo. On va en parler dans notre débat du jour, et notamment on va revenir sur cette opération coup de poing lancée il y a quelques mois par la police congolaise pour traquer les délinquants de Kinshasa, lutter contre la criminalité. Le problème, c'est que l'ONU, le mois dernier, et il y a quelques jours, l'Organisation de défense des droits de l'homme ont clairement dénoncé le comportement de cette police de Kinshasa. Le rapport de Human Rights Watch dénonce des exécutions sommaires. 51 personnes ont été ainsi tuées. 33 autres sont portées disparues. Alors c'est un sujet évidemment qui ne vous laisse pas indifférent. Vous qui nous écoutez à Kinshasa, vous êtes nombreux sur la page Facebook de l'émission. Et des réactions qui vont à peu près toutes dans le même sens. Vous êtes nombreux à saluer cette opération. Par exemple, Dieudonné nous dit, cette opération visait à sécuriser les paisibles citoyens en mettant hors d'état de nuire ces terroristes sanguinaires qui violent, volent, tuent, assassinent et dépouillent sans foi. Et vos réactions vont, faut le dire, dans ce sens-là. Donc vous avez tendance tous à soutenir la police de Kinshasa. On va en reparler évidemment dans un instant. Léa Lisa, pour terminer les explications, s'agissant des questions de Pierre.
Oui, alors je ne sais pas à quel moment la ligne a été coupée, mais en gros, je vais essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que ce désarmement traîne. Je disais qu'avec les milliers d'ex-combattants qui ont désarmé depuis la fin du M23, il y a un an, et que le pays a finalement à gérer ici, il y a une sorte d'embouteillage aussi qui a eu lieu, ce qui explique pourquoi peut-être on a traîné à rapatrier ces ex-combattants d'Ouganda et du Rwanda. Mais il faut dire aussi que Kinshasa n'est pas très pressé finalement de rapatrier et prendre en charge ceux qu'il considère comme d'anciens traîtres de leur pays. Enfin, il y a des problèmes de ressources pour mettre en place tous ces camps de désarmement et de réinsertion au Congo. Un appel à l'assistance de la communauté internationale a été lancé, oui. Mais les fonds tardent à venir. Tout ça explique les retards pris. Là encore, l'accord n'est pas caduque, ces déclarations de Nairobi, mais elles peinent à être respectées.
Donc patience, patience diront certains. Merci Léa Lisa d'avoir été en direct avec nous de Kinshasa. Reste avec nous dans un instant le journal.